Et maintenant, on retrouve Nicolas Baguert, professeur de communication à l'ULB Liex. Mardehane, vous êtes toujours directeur général de Télé-Bruxelles, mais ici, vous intervenez avec une autre casquette, celle de président du Conseil de déontologie journalistique. Et puis, Éric Bierin nous a rejoint, expert en communication politique.
Bonjour.
Vous êtes aussi avec nous. Bonjour ou rebonjour. Alors, il a suffi d'un incident avec Joël Milquet lors de l'enregistrement d'une nouvelle émission de la RTBF pour que soit relancé le débat autour de l'infotainment, ce mélange controversé, sulfureux, diront certains, d'information et de divertissement. La ministre de l'Enseignement et de la Culture a en effet dénoncé mercredi dans le soir une dérive généralisée des médias qui dépasse les limites, notamment en matière de respect de la vie privée. Alors, on ne va pas débattre ici de l'incident, d'autant que l'émission n'a pas encore été diffusée. Mais il faut bien le reconnaître, le débat est lancé ou relancé, comme en témoigne notamment la réaction du ministre des Médias, Jean-Claude Marcourt, qui a réagi en rappelant que l'indépendance de la presse, le droit à la transgression et le droit de choquer sont intimement liés à la démocratie. Voilà le décor. Mais d'abord, cette question au prof Nicolas, expliquez-nous votre définition de l'infotainment, parce que ça part quand même un peu dans tous les sens.
Hein. Oui, c'est vrai que lorsqu'on dit mélange information et divertissement, quand on dit ça, on n'a rien dit. Je pense qu'il faut voir différents types d'infotainment. Il y a d'abord l'infotainment qui concerne une juxtaposition de différents types d'émissions, donc ou de séquences divertissantes mises à côté de séquences informationnelles, informatives. Donc c'est des émissions hybrides qui offrent autant du contenu du hard news, comme on dirait, donc de l'information pure, et du rire ou des séquences humoristiques.
Un petit peu comme tout à l'heure, lorsqu'on
Exactement.
Parlait de BuzzFeed et de News Monkey, ce mélange d'infos sérieuses et d'infos voilà. plus légères, voire franchement trash parfois, sur le même site d'information.
Voilà, et je dirais la deuxième grande catégorie, c'est lorsqu'on a une subversion totale du dispositif. C'est-à-dire, on a effectivement une transgression, c'est lorsque l'émission qui devrait être une émission d'information, je dirais normale, retourne la caméra, par exemple vers les décors, vers les à côté. Typiquement, c'est le petit journal que tout le monde connaît. Et on a aussi la généralisation, je dirais, d'un ton différent, un ton familier, ce que certains appellent le LOL, donc ce ton humoristique, satirique, ouais. Qu'on retrouve de plus en plus, une forme de moquerie. Et on sait bien sûr que le rire, c'est aussi un outil d'information et de légitimation d'une idée, donc ça peut aider. Alors, je dirais les visées positives là derrière, c'est surtout de ramener un public vers justement un contenu informationnel qui délaisse.
Oui.
Dans les années 90, on avait les guignols de l'info. Alors là, évidemment, on n'était que dans la satire, on n'était pas vraiment dans l'infotainment.
Non, mais on disait quand même à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était en 95, que les guignols avaient aidé à faire élire Jacques Chirac auprès d'un certain public qui ne regardait pas les JT de 20h.
Et voilà, en fait, il faut vraiment voir l'infotainment comme une façon de percer le mur d'un différence. Donc c'est une manière vraiment de toucher des citoyens avec une forme d'information sérieuse, mais via peut-être un angle ou un ton décalé.
Ok, je vais vous arrêter là, parce que je sais que vous donnez un cours sur la question, mais évidemment ici, on n'est pas dans un auditoire, radio. Oui, mais je sais justement, mais les formats ne sont pas les mêmes. Les contenus peuvent être identiques, mais les formats ne sont pas les mêmes. Mardehane, ce mélange, cette juxtaposition d'infos sérieuses ou pas sérieuses, cette volonté d'aller voir les à côté, ce qu'on ne montre pas nécessairement, cette volonté aussi d'avoir un ton différent, c'est une évolution que vous percevez dans l'ensemble des médias ces dernières années et qui interpelle aussi le Conseil de déontologie.
Alors c'est évidemment une évolution que l'on a pu percevoir. Maintenant, je dirais qu'au niveau du Conseil de déontologie, elle n'a jamais véritablement entraîné de plainte, ce qui est quand même une forme d'indicateur. Je dirais qu'en soi, il n'y a pas d'enjeu déontologique particulier à l'infotainment. Si c'est de l'information, il faut respecter la déontologie journalistique. Mais en soi, le fait de développer des formes créatives, finalement, pour développer cette information, le fait de faire appel à d'autres ressorts que les ressorts classiques, c'est-à-dire de faire appel à l'humour, à une certaine mise en scène, à une scénarisation, ce n'est pas en soi un problème. Mais ce faisant, on peut à certains moments, effectivement, dépasser certaines limites, transgresser peut-être certains éléments qui seraient liés, par exemple, à la vie privée, qui est effectivement un domaine très très sensible. À ce moment-là, il peut y avoir un problème déontologique qui en découlent et dont pourrait être saisi le CDJ.
Donc ça veut dire que l'interpellation de Joël Miquet, en tout cas au sens large, elle vous paraît quand même digne d'intérêt. Il y a des questions particulières qui se posent par rapport à cette évolution.
Toute interpellation est digne d'intérêt.
Oui. Et si, ça, c'est la langue de bois.
Non, c'est pas du tout la langue de bois. Je pense qu'effectivement, le CDJ est là pour prendre en considération toute interrogation par rapport aux pratiques professionnelles.
Nicolas, on voit quand même un certain nombre de différences. Par exemple, si on demande une interview à quelqu'un et qu'il la refuse, sauf évidemment si c'est par exemple un ministre qui est mis en accusation ou qui est mis sur la sellette pour un sujet ou l'autre, on va pas passer ce refus. Il ne peut pas donner l'interview. Bon, voilà. Mais par contre, s'amener dans une réunion et filmer à tout prix et le diffuser après, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. On voit bien que les règles sont quand même un peu différentes.
Moi, je comprends la réaction du politique. Parce que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est une rupture d'un contrat de confiance. Je fais pas une pub pour une marque, là, mais l'idée, c'est de dire, jusqu'à présent, les médias et les politiques travaillaient ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas d'action politique, de fait politique sans reprise médiatique. Et donc, il y a une collaboration, une coopération, voire une co-création du contenu politique qui est fait. À partir du moment où le contrat, il est plus celui-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de off, on va aller voir vraiment...
Le off, c'est-à-dire ce qui est communiqué, échangé, mais qui n'est pas publié.
C'est-à-dire que par souci extrême de transparence, on va aller vraiment filmer, je dirais, en dessous de la ceinture, parfois, alors ça, c'est dans les cas extrêmes, où évidemment, dans les coulisses, au moment où le politique est pris, finalement, un peu par surprise, on va arriver à une forme de méfiance de la part du corps politique qui ne va plus peut-être coopérer de la même manière avec les médias, comme ça a été peut-être le cas auparavant.
Un tout petit mot de Mardoane et puis on aura le contre-champ d'Éric Bérin.
Le contrat de confiance, la confiance, on peut tout à fait la comprendre, mais il ne faut pas que ce contrat soit un contrat qui finalement ferme l'information sur ce que les politiques veulent communiquer. Mmh. Ils s'organisent pour communiquer et déterminer les codes de cette communication. Les journalistes, ils sont là pour faire surgir la vérité et parfois elle n'est pas bonne à dire, pas bonne à entendre et pas souhaitée par les politiques eux-mêmes. Il faut donc laisser une capacité d'investigation aux journalistes pour faire leur travail en tant que critique politique également.
Alors Éric Bérin, vous avez longtemps fait de la communication politique. Est-ce que les politiques sont tout à fait droits dans leurs bottes dans ce genre journalistique qui s'est développé, l'infotainment? Est-ce que finalement, ils n'en sont pas très contents lorsque ça se passe bien, qu'ils mettent les rieurs de leur côté, qu'ils passent pour des gens sympas et qu'ils ont plein de messages où on leur dit « Oh, tu as été formidable, c'était sympa et tout ». Et puis qui commence à tout remettre en question lorsque ça se passe mal.
Oui, mais l'important au départ, c'est que les règles soient connues de tous. Hein, et si elles changent, il faut que tout le monde le sache. Ce qui a probablement changé avec le temps, c'est que auparavant, le hors-champ était négociable. Vous voyez.
Donc le hors-champ, c'est ce qui n'est pas traditionnellement
ce qui n'est pas montré, je veux dire,
dans les journaux. Oui.
Ce qui n'empêchait évidemment pas le journaliste de faire son travail. Mais je prends un exemple tout à fait pratique. Un politique ne souhaitant pas, par exemple, apparaître avec une cigarette au bec publiquement, mais il était tout à fait envisageable auparavant, sans que ça ne choque personne, que cette personne puisse dire au caméraman « Désolé, mais je ne souhaite pas être filmé à ce moment-ci », et c'était respecté.
Pendant la pause club.
Voilà, par exemple. Mmh. Bon, aujourd'hui, évidemment, avec la multiplication des opérateurs médiatiques, je dirais, tout le monde avec son téléphone peut poster une photo sur n'importe quel réseau social, et donc, du coup, ce hors-champ est plus difficilement négociable, d'une certaine manière. Maintenant, c'est clair qu'on a aussi un peu le sentiment que le politique est allé du côté de la peopleisation en même temps qu'il perdait un peu de son pouvoir d'attraction et de sa puissance publique. Et que, faute d'exister par ses décisions, il a fini par accepter de devoir exister en marge du politique et en donnant un peu de biscuits du côté de sa vie privée, ses enfants, etc. etc. Et là, effectivement, il s'est plutôt tiré une balle dans le pied de ce point de vue.
Mardoane, est-ce que justement, comme le dit Éric Bérin, la difficulté n'est pas que les règles sont en train d'évoluer, le champ évolue. Avant, il était très clairement établi qu'il y avait ceux qui passaient à l'antenne et ceux qui ne passaient pas à l'antenne. Les règles étaient immuables. Maintenant, la frontière est plus floue et les règles évoluent. Est-ce que c'est justement pas ça qui est difficile?
Oui, bien sûr, les pratiques d'abord évoluent, et puis est-ce que les règles doivent s'y adapter? Je pense qu'au niveau des fondamentaux qui relèvent du respect de la personne, certes de la zone de vie privée d'une personnalité publique, on peut considérer qu'elle est un peu plus réduite que celle de vous et moi, et encore, nous sommes aussi un peu des personnalités publiques, donc on peut apprécier ça. Mais la règle fondamentale va rester, en même temps, c'est vrai qu'à certains moments, on doit pouvoir se poser des questions sur son adéquation par rapport aux pratiques du jour. Oui.
Nicolas ?
Mais je pense que la transgression, elle sera toujours protégée, en tout cas du côté des médias, et on peut comprendre, puisqu'il y a la liberté bien sûr de la presse, et le droit de choquer également. On l'a vu d'ailleurs, les politiques qui ont défendu ce droit. Mais je dirais, l'autre extrême, c'est d'aller vers ce qu'on appelle une tabloïdisation, donc les tabloïds, une tabloïdisation de la sphère médiatique traitant du politique. D'une part, à cause justement du glissement people dont Éric Bérin a parlé, et d'autre part, par cette course vers les décors aujourd'hui, où aller voir ce qui se passe dans le décor, aller dévoiler l'arrière-scène, devient l'information en soi, et devient un événement. Et donc, à force de faire du hors-champ, qu'est-ce qu'on met dans le champ principal? Et là, on a un glissement dans un certain nombre d'émissions qui vont tellement chercher, je dirais, à mettre à mal le politique dans ce qu'il a peut-être tenté de cacher ou de fabriquer avec la com, de décrypter justement le travail des communicants, et on le voit en France, on le fait systématiquement, pour voir vraiment la fabrication, que finalement on va, je pense, arriver à un politique qui se surprotège par rapport aux médias, qui va se dire oulala, je ne peux plus du tout vous faire confiance, parce que je sais que même si on dit pas de cigarette, etc., il y a quand même une petite caméra qui va traîner quelque part, ou un jeune de votre équipe qui va essayer d'avoir une info croustillante pour avoir le moment de télévision.
Est-ce que c'est une forme de marketing pour les médias actuellement? On sait que la concurrence est féroce, elle l'a été beaucoup moins auparavant, elle le devient de plus en plus maintenant, de se dire nous on ose, nous on est cool, nous on y va quoi. Est-ce qu'il n'y a pas cette pression quand même?
Oui, on peut considérer qu'il y a une forme de pression, mais c'est aussi une manière de rester en phase avec la société elle-même, donc c'est le public répond très très bien, réagit très très bien à ça, et on est dans les codes du public lui-même. Donc, où est l'œuf, où est la poule? Qu'est-ce qui entraîne l'un et l'autre?
Les journalistes peuvent-ils tous se permettre au nom de l'infotainment? Nous en parlons avec Nicolas Baguert, professeur de communication à l'ULB à l'IEX, Marc Dehaene, président du conseil de déontologie journalistique, et Éric Bérin, expert en communication politique. Vous écoutez Les Décodeurs, c'est sur la première. Éric Bérin faisait le lien entre peopleisation et infotainment. Pour vous, c'est lié, Nicolas ?
Oui, c'est d'ailleurs de nouveau une forme de collaboration. Effectivement, il y a le temps médiatique a changé pour le politique. Avant, on avait des émissions politiques qui étaient très sérieuses, qui intéressaient les gens, finalement, parce qu'il n'y avait pas trop de choix. On ne pouvait pas zapper sur 50 autres chaînes. Et puis aussi, le ton politique a changé. Lorsqu'on voit d'ailleurs quelqu'un comme Finkielkraut, dont on a parlé tout à l'heure, se plaindre de la qualité des débats et du vocabulaire et de la rhétorique.
Oui, mais il est académicien maintenant.
Bien sûr, académicien. Mais c'est vrai qu'on voit un appauvrissement du langage politique. Et c'est vrai aussi qu'il y a une contrainte majeure pour le politique, c'est la pression du format court. Ouais. Et aussi le souci d'exister, parce qu'encore une fois, si vous voulez exister comme homme politique, vous devez être médiatisé, vous devez être pris médiatiquement. C'est un petit peu comme, vous savez, les groupes dans les années 80, si vous êtes sur MTV, pas de problème, mais les petites scènes, etc., ça ne va pas vous ramener le même public.
Maintenant, il faut être sur YouTube.
Voilà, maintenant, il faut être effectivement sur YouTube.
Éric Bérin ?
Oui, avec le risque supplémentaire que finalement, c'est l'insolite qui devient la norme. Vous voyez, à force de buzz, à force de devoir exister en marquant les esprits, on peut s'attendre à ce que, bah, pour le moment, sur les sites d'infotainment type BuzzFeed, Topito, Démotivateur, etc., ce qui marche beaucoup et ce qui marche déjà depuis un certain temps, c'est par exemple les 21 photos d'Halloween les plus bizarres de tout le temps.
Oui, on en a parlé tout à l'heure à propos de News Monkey.
Ou les 18 trucs que les blondes en ont marre d'entendre. Enfin bon, et ça peut aussi bien devenir les 8 expressions toutes faites les plus utilisées par Benoît Lugène. Enfin, vous voyez. Et à côté de ça, on a du contenu sur ces sites qui est sponsorisé par des entreprises sans que ce soit précisé aux lecteurs. Et donc, cette évolution-là, pour la politique, elle est quand même un peu préoccupante.
Mais Marc Dehaene, vous êtes journaliste, c'est vrai qu'il y a quand même aussi la pression de vouloir s'adresser au plus grand nombre, de ne pas réserver la politique aux politologues, aux universitaires, à ceux qui croient ou la connaissent. C'est une démarche qui remonte loin et c'est vrai que il fallait montrer que la politique c'était avec des gens, que il y avait des faiblesses, mais qu'il y avait une volonté quand même de faire le bien, une volonté d'être en contact avec le public. C'est ça aussi qui a joué.
Mais cette démarche de vouloir être entendu du plus grand nombre, elle est aussi très légitime. C'est quand même fondamentalement pourquoi nous sommes là. En particulier ici, c'est un service public et donc il faut pouvoir toucher tous les publics et donc pouvoir à certains moments se mettre au niveau des préoccupations de notre public. C'est légitime, c'est honorable en soi. Il ne faut pas que ça dérape. D'autre part, il ne faut pas aussi négliger le fait que des émissions d'animation proprement dites, je pense en particulier à des jeux télévisés, des émissions de divertissement, accueillent aujourd'hui des politiques. Monsieur Bardewever a fait sa notoriété grâce à un jeu télévisé. Et donc ça pose véritablement en question aussi. Ça part dans tous les sens, ça n'interpelle pas que les journalistes, mais globalement.